9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Alors, on est un peu en retard ce matin, c'est vrai que ça circule mal. J'ai invité le docteur Bilal Omarji, comment ça va?
Bah, très bien, à l'heure réunionnaise.
C'est ça, il faut préciser alors. Voilà, chirurgien oral, et vous êtes membre de la société médicale d'orthopédie dentomaxillofaciale. Je me suis bien marré parce que à l'occasion du Black Friday, il y a un centre d'implantologie dentaire qui proposait des implants dentaires à des prix Black Friday. Vous n'avez pas vu ça ?
J'ai pas vu ça. Et alors, ça m'étonne pour deux points, puisque maintenant, la publicité est devenue légale pour les médecins et les chirurgiens dentistes, mais elle doit être bien sûr encadrée. Et on peut remarquer ce genre de dérive.
Ah, je me suis dit, même les dentistes se mettent au Black Friday.
Voilà, c'est la hyper-consommation des soins dentaires.
Bien, à l'occasion du congrès de l'Association dentaire française, eh bien, les dentistes alertent sur les petites manies bucco-dentaires qui peuvent affaiblir nos dents, voire les casser. Alors, j'ai appris un nouveau mot, c'est ce qu'on appelle la chélophagie. Est-ce que vous savez ce que c'est que la chélophagie ?
Chélophagie, c'est le fait de ronger ses ongles. Donc, phagie pour manger,
ouais.
Et kélo pour ongles. Alors, plusieurs incidences sur la santé buccale. Donc déjà, ça peut user l'émail dentaire. Donc l'émail est la partie la plus minéralisée du corps humain. Donc l'avantage, c'est de pouvoir garder des dents toute sa vie, bien sûr, bon, très dur. Mmh. Et l'inconvénient, tout ce qui est dur peut être cassant. Donc on peut avoir des petites pertes d'émail, notamment ceux qui ouvrent leurs canettes de coca ou autre avec leurs dents. Et donc on peut se retrouver avec un sourire ébréché.
D'accord, on n'y pense pas souvent. Alors il y a aussi se mordre l'intérieur des joues qui est considéré comme une pathologie dentaire. Pourquoi ?
Alors c'est un fact.
Quel est le rapport ?
Alors c'est un facteur de pathologie buccale. Alors, il faut savoir que à l'intérieur de la bouche il y a une muqueuse et donc tout, on peut dire ça, c'est comme une sorte de peau et donc on pourra retrouver toutes les maladies dermatologiques à l'intérieur de la bouche. D'ailleurs, c'est une sous-spécialité qu'on appelle la dermatologie buccale. Donc, quel lien avec le fait de se mordiller fréquemment l'intérieur des joues ? On va avoir une kératose. Donc, imaginez que vous frottez toujours votre peau sur votre main. Donc, on a cette peau qui va durcir, qui va devenir cartonnée. Donc on aura l'apparition d'une ligne blanche à l'intérieur du joue. Ça se retrouve principalement sur des personnes qui sont plutôt stressées et qui ont tendance.
C'est un tic en fait.
C'est un tic. Ouais. On appelle ça une parafonction en langage médical. Donc c'est une fonction qui est détournée de son usage normal.
D'accord. Et quelle est l'incidence sur nos dents alors de se mordiller comme ça?
Alors, incidence sur les dents, rien du tout, mais incidence sur la muqueuse buccale. Donc la muqueuse buccale va devenir hachée et elle va devenir kératosique, donc l'apparition de cornes. Et c'est l'apparition de cornes peut bien sûr embêter le patient par des petites inflammations buccales. Dans certains cas, il faut savoir qu'il y a des lésions blanches dans la bouche qui peuvent être des états précancéreux. Le fait de mâcher, est-ce que ça peut apporter vers une lésion précancéreuse ? Donc clairement non, ouais. Mais ça peut être un cofacteur.
D'accord. Alors ils ont parlé aussi du mâchouillage de stylo. Hein. Il y a des gens qui sont toujours en train de mâchouiller leur stylo d'ailleurs.
Oui, alors toujours pareil, donc ça pourra apporter soit des petites fractures dentaires, mais plus facilement des déplacements dentaires. Alors, si bien sûr le patient a des pathologies de gencives qui vont fragiliser la stabilité des dents, bah il va aggraver la mobilité de ses dents et on aura des dents qui vont devenir petit à petit vers l'avant et qui vont migrer vers l'avant. Donc ça, c'est un signe d'alerte pour le patient. Direction chez le dentiste.
Bien. On va parler du tabac également à l'occasion de cette journée. Et le tabac risque de masquer une gingivite. Alors, comment est-ce que le fait de fumer, ça peut masquer une gingivite ?
À gingivite, rappelons-le, Philippe, c'est une inflammation des gencives. Dans la plupart des cas, dans plus de 95% des cas, elle est d'origine infectieuse, bactérienne, puisqu'on aura l'accumulation de plaques dentaires à chaque fois qu'on va manger. On a des bonnes bactéries tous dans la bouche. Et en fait, si on n'a pas une bonne hygiène pour enlever cette plaque alimentaire, on aura l'apparition, la pullulation de bactéries opportunistes. Et en corollaire, on aura une inflammation des gencives. Celle-ci est remarquée par le patient, notamment par un saignement au brossage. Et du coup, la nicotine va réduire
les saignements.
Les saignements, parce qu'en fait, elle va constricter les vaisseaux. Donc, ce signe d'alerte ne sera plus présent chez le patient.
On aura toujours la gingivite.
On aura toujours la gingivite un peu sournoise.
D'accord, mais elle ne se manifeste pas par des saignements. C'est-à-dire que fumer fait moins saigner de la bouche.
Exactement.
Bien, on reparlera de la gingivite tout à l'heure, et puis on parlera également des piercings tout à l'heure, puisqu'on a parlé au cours de ces journées du piercing. Et puis on va parler ce matin avec vous de la nouvelle et des nouvelles technologies numériques qui arrivent chez vos dentistes. Si vous avez des questions à poser, profitez de la présence de Bilal, j'allais vous appeler Omar, de Bilal Omar J avec 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, nous avons le docteur Bilal Omar J qui est avec nous, chirurgien oral, et on parle de vos dents. On a beaucoup parlé du piercing, notamment au congrès des chirurgiens dentistes. Alors, justement, quelles sont les préconisations qu'ils font pour le port du piercing? Est-ce qu'il faut l'enlever?
Alors, le piercing, idéalement...
Le piercing sur la langue.
Yes, sur la langue. On parle de bouche avec moi. Le piercing, idéalement, on ne le met pas. Tous les piercings au début étaient en métal, et on a remarqué dans la population de ceux ou de celles plutôt qui mettaient ce type de piercing, on avait une incidence sur les gencives puisque ça a fait un déchaussement des dents de devant, les incisives mandibulaires, donc les dents de devant du bas, et en plus c'est un déchaussement qui est difficile à traiter puisque c'est à l'intérieur de la bouche en face de la langue qui nécessite éventuellement une petite greffe de gencive. Ensuite, ça va augmenter les mobilités dentaires, si tant est que la personne a déjà une maladie gingivale, soit une gingivite, ou soit une gingivite profonde, qu'on appelle une parodontite. C'est le déchaussement dentaire par attaque de l'os qui soutient les dents. Donc, on peut affilier tout ce qui est piercing dentaire à la parafonction. On a vu tout à l'heure ce que c'était l'onychophagie. L'onychophagie, c'est le fait de se mordiller les lèvres, qui peut être un facteur d'avoir donc des lèvres inflammatoires. On appelle ça une cheilite. Et dans certains cas, si la personne a déjà une maladie dermatologique générale ou localisée, ça peut être un cofacteur de dégénérescence de cette pathologie.
Donc on peut avoir quoi donc dans ces cas-là?
On peut avoir, alors, si tant est la personne est fumeuse et la personne, imaginons qu'elle cultive, qu'elle fait de l'agriculture en plein champ ensoleillé, elle pourra avoir ce qu'on appelle une cheilite actinique qui peut être un état précancéreux du cancer de la lèvre. Donc quand même un peu important et grave.
Bien, de nos jours, les technologies numériques s'installent dans vos cabinets, vous les dentistes. Quelles sont les nouvelles technologies que vous utilisez?
Alors, le cabinet dentaire et la profession dentaire est une des spécialités médicales qui a le plus bénéficié des nouvelles technologies, notamment les technologies 3D. Donc, on a l'arrivée maintenant, depuis une dizaine d'années dans les cabinets dentaires, du scanner dentaire. Donc, pas la peine de passer chez le radiologue. Votre dentiste, s'il est bien équipé, s'il fait la chirurgie orale, s'il fait l'implantologie, en général, il a un scanner dentaire, ce qui va permettre, même pour le patient, quelque chose de rigolo, de voir sa mâchoire en trois dimensions. Alors, chacun de mes patients, à chaque fois je lui montre, alors vous reconnaissez sur votre squelette, il trouve ça pas beau du tout.
Non. Alors, les imprimantes 3D, donc maintenant vous faites des dents avec l'imprimante 3D?
Yes, deuxième révolution, donc on appelle ça la CFAO, conception, fabrication assistée par ordinateur. Donc traditionnellement, jusqu'à quelques années, on passait par le prothésiste avec le fameux moulage dentaire, l'empreinte dentaire dans la bouche pendant 5 minutes. Voilà, fallait mordre dans un gros marshmallow. Et donc maintenant, on peut passer par une caméra optique, par une caméra 3D. Donc directement en 3-4 minutes, vous voyez vos dents en 3 dimensions sur l'écran du dentiste. Et le dentiste peut en 5 minutes fabriquer une couronne virtuelle. Cette couronne virtuelle sera envoyée à l'imprimante 3D. Et l'imprimante 3D, en une dizaine de minutes, ça dépend bien sûr de l'efficacité de l'imprimante, va vous produire une couronne. Donc en fait, en un seul rendez-vous, on peut soigner la dent et mettre votre couronne.
La prothèse.
Et mettre la prothèse. Et il faut savoir que les matériaux céramiques ont beaucoup évolué. Donc on aura bien sûr des matériaux beaucoup plus, de plus en plus esthétiques et performants. Bien sûr, attention, ça ne remplace pas le prothésiste dentaire. Et le prothésiste dentaire lui-même, son laboratoire, a connu une véritable révolution parce que lui.
Ah oui, mais vous dire que c'est une dent provisoire, donc là que vous. Dont vous
non, parlez. Ça peut être directement la dent définitive pour certains types de reconstruction dentaire. Pour les reconstructions dentaires un peu plus complexes, on passera par le laboratoire de prothèse et lui-même, le prothésiste, sera équipé d'imprimantes 3D encore plus perfectionnées que chez le chirurgien dentiste.
Bien, autre technologie que vous utilisez?
Alors, donc moi, j'utilise la caméra 3D et le scanner 3D principalement. J'ai aussi le laser. Le laser est extrêmement intéressant puisque ça va permettre de faire des petites chirurgies sur la gencive sans douleur et parfois même sans anesthésie. Notamment ce qu'on fait chez les enfants qui présentent un frein de langue ou un frein de lèvres un peu hypertrophié, donc un peu plus important que la norme et qui peut faire apparaître un espace entre les dents de devant. Donc l'orthodontiste souvent va amener à demander la frénectomie. Donc très là. Facile, la frénectomie.
C'est-à-dire
donc, l'ablation du frein de la lèvre supérieure. Voilà. Ensuite, haute technologie,
ouais.
Philippe, si tu me permets, l'utilisation des concentrés plaquettaires. Alors, extrêmement intéressant dans les chirurgies orales que moi je pratique quotidiennement. Donc, avant l'intervention, que ce soit dents de sagesse, implants, greffe osseuse ou les kystes à enlever au niveau des mâchoires. Donc, je fais passer mon patient dans une salle où je fais un prélèvement sanguin. 4 petits tubes comme chez l'infirmière. Je centrifuge ces 4 tubes et on sort un concentré de plaquettes. Donc les plaquettes sont des protéines et des petites cellules. Alors ce sont des cellules sanguines hein, qui vont contenir des protéines et dans ces protéines il y aura des facteurs de croissance. Intérêt pour le patient, rapidité de cicatrisation, cicatrisation moins de douleur et dans les greffes osseuses, on va potentialiser la cicatrisation de ces greffes osseuses en augmentant leur vascularisation, donc leur apport en nutriments pour qu'ils cicatrisent beaucoup mieux.
Est-ce que cette arrivée de la technologie, ça fait augmenter le prix et le coût des soins ou pas?
Alors, toujours cette question des soins dentaires qui reste quand même, pour les soins dentaires avancés, plutôt onéreux. Donc oui, ça peut faire augmenter si tant est que la technologie numérique est une étape supplémentaire. Mais globalement, on a quand même... Comme ces technologies deviennent démocratisées, on a quand même des prix qui sont stables par rapport aux techniques traditionnelles. Et on a une meilleure précision accrue. Donc, un dentiste qui va vous proposer un implant avec un guide chirurgical, c'est-à-dire on aura posé l'implant sur l'ordinateur avant. Donc, en fait, on va pouvoir gagner en précision. Donc l'implant sera beaucoup plus précis et donc la couronne sera beaucoup plus esthétique et ensuite on aura une chirurgie qui sera à minima, on n'aura pas besoin de faire une grande incision et donc moins de suite opératoire pour le patient. Donc il y a quand même un bénéfice qui est important pour le patient avec ces nouvelles technologies.
On est passé un peu vite sur la gingivite tout à l'heure. La gingivite, c'est très fréquent et paradoxalement, les gens s'en inquiètent peu. Quels sont les premiers signes de la gingivite?
Alors oui, 60 à 80% de la population souffre d'une gingivite. Alors la gingivite est une maladie un peu sournoise puisqu'il n'y a pas de signe d'alerte. Le seul signe d'alerte que vous pouvez avoir sur une gingivite débutante ou chronique, c'est le saignement. Et le saignement, surtout au brossage dentaire. Donc un saignement dans la bouche n'est pas anodin. Donc, classiquement, c'est le saignement des gencives et ça doit vous alerter pour une consultation chez votre chirurgien dentiste. Alors, le début de la maladie des gencives, c'est une gingivite. C'est dû aux infections bactériennes qu'on a dans la bouche, comme on l'a dit tout à l'heure. Et l'évolution de cette gingivite est la parodontite. Donc, la paro, c'est les tissus qui soutiennent la dent, et notamment l'os qui soutient la dent. Et là, c'est l'histoire du parasol sur la plage qui est tenu dans le sable. Donc, ce sable est atteint, et effectivement, même si la dent est bonne, elle sera amenée à bouger, et puis on peut perdre ses dents comme ça à la longue. Donc, c'est la principale histoire de perte dentaire chez l'adulte de plus de 50 ans, la parodontite.
Donc, quel est le moyen justement de soigner ou de prévenir la gingivite?
Alors, le meilleur moyen de soigner, c'est bien sûr la prévention. Donc, agir avant que la maladie arrive. Donc, c'est bien sûr l'hygiène bucco-dentaire. Donc, toujours et toujours le brossage dentaire au moins deux fois par jour. Le soir est le plus important, puisque pendant le sommeil, on va saliver 10 fois moins. Et on sait que la salive contient des facteurs protecteurs de la bouche et des gencives.
Donc, s'il y a un brossage par jour qu'il faut faire, c'est celui du soir.
Exactement.
Et donc, ça prévient la gingivite.
Alors, une bonne technique de brossage va prévenir la gingivite en enlevant la plaque dentaire. Et la plaque dentaire, après 20 jours, va se minéraliser, et c'est comme ça que la plaque devient le tartre. Et dans ce tartre va se nicher des bactéries qui vont s'organiser en véritable population, et il y aura les bactéries un peu opportunistes, un peu on va dire nocives pour la bouche, qui vont pulluler et qui vont sécréter des facteurs qui vont détruire ces gencives et ces os.
C'est comme ça que le tartre se fait. Donc vous, comment vous soignez la gingivite? Qu'est-ce que vous faites?
Alors, il y a plusieurs étapes. Donc la première étape, c'est toujours l'assainissement buccal. Donc ça commence par un détartrage. Si la gingivite est avancée, le patient est amené à faire un détartrage sous la gencive. Donc l'anesthésie est importante. Ouais. Et éventuellement ce qu'on appelle un surfaçage. Donc toujours avec l'appareil à détartrer, on va aller détartrer au niveau des racines, puisque les dépôts de plaques dentaires et les dépôts bactériens vont se localiser au niveau des racines. Donc le patient, tout un chacun, ne pourra jamais enlever cette plaque bactérienne sous la gencive, parce qu'il n'y aura pas d'accès au brossage. Donc ça, c'est la première étape, toujours avoir une gencive saine. Encore plus chez les patients qui ont une maladie chronique comme le diabète, puisqu'on sait qu'il y a un lien assez important entre le diabète ou les maladies cardiovasculaires ou les maladies gynécologiques ou tout ce qui est maladie chronique et les maladies inflammatoires gingivales.
C'est-à-dire, quel est le lien alors?
En fait, ces maladies gingivales inflammatoires et la plaque bactérienne, en fait, les bactéries vont sécréter des facteurs qui sont dits pro-inflammatoires. Ces facteurs vont passer dans le sang et vont ces points d'inflammation encore plus importants ailleurs dans l'organisme.
D'accord. Alors, c'est important d'utiliser des bains de bouche pour la gingivite, ou ça présente aucun intérêt?
Tout ce qui est bains de bouche, accessoires d'hygiène, ne reste que des accessoires. Pour les bains de bouche, attention, il y a deux types de bains de bouche. Il y a le bain de bouche médicamenteux, type Eludril ou Paroex, qui ont un effet antiseptique, donc ils vont à la fois détruire les bonnes et les mauvaises bactéries. Donc, utilisation jusqu'à 10 jours maximum, et utilisation ponctuelle, bien sûr prescrit par votre médecin ou votre chirurgien dentiste. Ensuite, si vous voulez utiliser un bain de bouche pour votre haleine ou pour un peu plus de confort, préférez bien sûr les bains de bouche qui sont dans le commerce, qui sont à base de fluor ou de certaines substances pour une meilleure haleine ou pour reminéraliser les dents.
Mais ce qui veut dire que finalement, le bain de bouche ne se substitue pas au brossage des dents.
Voilà, en aucun cas, le facteur le plus important en hygiène buccale, c'est le brossage. Et ce n'est même pas le dentifrice, puisque 95% de l'efficacité de l'hygiène est apportée par la technique de brossage. Donc, encore une fois, maintenant, on a YouTube et des vidéos. Je vous invite à regarder la bonne technique de brossage et à faire, notamment pour vos enfants.
Ça ne sert à rien d'investir dans un dentifrice super cher. Finalement, voilà. c'est pas ça qui change.
C'est pas ça qui change, effectivement. Ouais,
c'est le fait de... Voilà, d'appuyer sur la brosse.
Alors attention, ne pas appuyer trop fort, puisque on aura un effet nocif si vous appuyez trop fort et vous brossez trop fort. Vos gencives auront tendance à se rétracter. Et on a deux types de gencives dans la population. On a le biotype fin, la gencive fine, belle en général, bien élancée entre les dents, hein, ça donne un beau sourire. Mais cette gencive peut être fragile, donc il ne faut pas l'agresser par un brossage trop fort. Donc moyen pour nos patients, c'est d'utiliser une brosse à dents souple et une bonne technique en rouleau ou en petit cercle. Donc aller brosser cette gencive de manière délicate et fine pour bien sûr la respecter.
Bien, docteur Bilal Omarji est avec nous. Si vous avez des questions à poser sur vos dents, eh bien vous pouvez le faire au standard 01 53 48 3000 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, on parle de dents ce matin avec le docteur Bilal Omarji, chirurgien oral. On va parler des implants, mais avant de parler des implants, j'aimerais qu'on parle de ce fameux reste à charge zéro. Ça va être bien pour les patients, ça?
Ah oui, 2020, loi Macron, reste à charge zéro. Reste à charge zéro, qu'est-ce que c'est? On sait bien que les soins dentaires laissent quand même une grande partie à charge pour le patient. Donc, d'où l'intérêt d'avoir une mutuelle et d'avoir une mutuelle qui rembourse bien le dentaire. Donc, à bien regarder, les amis, quand vous choisissez une mutuelle, votre tableau de garantie. Ouais, reste à charge.
Il faut comprendre en plus.
Il faut comprendre.
Il faut comprendre ce qui rembourse. Hein, c'est 400%, 500%. Des fois, tu ne comprends pas très
bien. Je suis tout à fait d'accord. La plupart de mes patients sont perdus. Donc, ce que je leur demande, c'est éventuellement leur tableau de garantie pour pouvoir les aider. Donc, reste à charge zéro, ça veut dire quand vous allez partir chez votre dentiste pour une prothèse dentaire, une couronne ou des soins qui ont une partie, un dépassement d'honoraires ou des honoraires libres, donc votre dentiste devra faire 3 devis. Obligatoirement. Donc, il y aura un premier devis, reste à charge zéro, où il y aura théoriquement, où il n'y aura pas de reste à charge pour le patient. Donc, en fait, le patient sera pris en charge à 100% par la Sécu et sa mutuelle. Donc, bien sûr, corollaire, il faut avoir une mutuelle. Donc, ça, c'est le panier numéro 1. Le panier numéro 2, votre dentiste va vous proposer un devis pour votre couronne. De reste à charge modéré. Donc là, les matériaux sont un peu plus sophistiqués, sont un peu plus esthétiques. Et du coup, il y aura des honoraires qui seront encadrés. Donc là encore, il faut avoir une mutuelle. Donc vous serez pas remboursé totalement, il vous restera un reste à charge modéré. Ensuite, pour les matériaux de pointe ou l'utilisation des techniques avancées, notamment 3D et CFAO qu'on a discuté tout à l'heure, il y aura un troisième devis qui s'appellera reste à charge à honoraire libre. Donc là, le tarif n'est pas plafonné, donc le tarif sera fixé par votre dentiste, hein, selon la région dans laquelle vous vivez, et puis ce sera au patient de choisir entre le panier 1, panier 2, panier 3, et bien sûr selon les qualités et les diplômes de votre dentiste.
Bien, alors on va parler des implants, les implants ils sont dans quel panier ?
Ah, les implants resteront malheureusement dans le panier à honoraires libres. Pourquoi ? Puisque la Sécurité sociale ne reconnaît toujours pas les implants comme soins dentaires courants.
Ça représente combien en nombre par an d'implants
Alors, 400 000 implants posés en France.
C'est pas énorme finalement. C'est même très peu.
C'est même très peu comparé au chiffre mondial. On est à 250 millions d'implants posés par an. où en fait on a un marché français qui est en plein essor. Plusieurs facteurs peuvent expliquer un nombre moins important d'implants posés en France. Bah, bien sûr, c'est d'abord l'accessibilité. Pas tous les chirurgiens-dentistes posent des implants dentaires. Ça demande une formation supplémentaire et éventuellement d'avoir la spécialité officielle de chirurgie orale, à savoir que être chirurgien oral de nos jours, on n'en forme que 30 par an en France. Donc, il y a à peu près 250 chirurgiens oraux sur toute la France. Et ceux-là sont habilités à faire de l'implantologie complexe. Il y a à la fois l'implant simple, on a un bon os, une bonne gencive, votre chirurgien-dentiste classique pose des implants, sera un implant facile. Et il y aura des implants dits difficiles où ça nécessitera de reconstruire l'os, une greffe osseuse et aussi une greffe de gencive pour avoir un implant esthétique. Alors attention, l'implant dentaire n'est pas tout le traitement. L'implant dentaire est uniquement la vis en titane médicale, un peu comme la prothèse de hanche, qu'on met dans la mâchoire par une étape chirurgicale. Cet implant va s'ostéo-intégrer en 4 mois et ensuite vous aurez votre couronne définitive sur votre implant dentaire. Alors cette couronne...
C'est le point d'ancrage en fait.
Voilà, c'est le point d'ancrage ou le premier étage de votre reconstitution dentaire. Il faut savoir que la couronne sur implant, bonne nouvelle là, est prise en charge par la Sécurité sociale à hauteur de 107 euros pour le tarif de base. Si vous avez une mutuelle, elle va multiplier 200 à 300%, donc 300% jusqu'à 400% même du tarif de base de 107 euros, donc à peu près une enveloppe de 400 à 500 euros de remboursement sur cet implant dentaire. Et certaines mutuelles vont rembourser pour l'implant dentaire 700 à 800 euros. Donc en moyenne, on va calculer 700 à 800 euros sur l'implant dentaire plus 500 euros sur la couronne sur implant, donc ça fait à peu près 1200 euros de prise en charge pour un implant dentaire qui vaut en moyenne en France entre 1600 et 2300 euros.
Donc tout compris avec l'intervention du chirurgien.
Voilà, tout compris avec toutes les étapes. Donc on aura un reste à charge qui sera bien sûr plus abordable. Donc n'ayez pas peur du coût brut que vous annonce votre chirurgien dentiste, puisqu'il faut bien sûr calculer vos prestations de remboursement.
Est-ce que les implants, ça peut remplacer deux dents côte à côte?
Alors, il y a plusieurs stratégies possibles. Il faut savoir que les implants, il y a plusieurs diamètres possibles et en fait, on va calculer combien d'implants on peut poser en fonction de votre masse osseuse, en fonction de la qualité de votre os, mais aussi en fonction de l'épaisseur et de la hauteur d'os. Maintenant, il y a un paradigme en dentisterie, on préfère moins de titane, plus d'os. Donc ça veut dire moins d'implants et avoir plus d'os. Il vaut mieux. Et c'est l'os qui est garant à long terme de votre implant dentaire. Donc sur une situation où on aura deux dents devant manquantes, souvent ce que je fais, c'est je mets un seul implant dentaire qui va supporter deux dents, ce qui va permettre en conséquence d'avoir une meilleure gencive qui va être vascularisée, nourrie par cet os qui est sous-jacent. Et donc un meilleur résultat
donc,
esthétique.
Il vaut mieux éviter d'avoir deux implants côte à côte. C'est ça que
il vaut mieux éviter d'avoir deux implants côte à côte et trop proche, puisque ça va aussi induire des maladies d'échaussement sur ces implants. Les implants ne sont pas immuables à vie. Ils peuvent avoir les mêmes pathologies que les dents naturelles. Donc, ils peuvent se fracturer, ils peuvent se déchausser. Et là, c'est encore un peu plus sournois, puisque le déchaussement, l'implant dentaire n'est pas innervé. Il n'y a pas de nerf, il n'y a pas de ligament comparé à une dent naturelle. Donc, il y aura moins de facteurs d'alerte pour le patient. Donc, qui dit implant dentaire dit maintenance obligatoire chez le dentiste au moins une fois par an pour aller nettoyer sous la gencive et avoir gardé le bénéfice d'un bel implant dentaire. Mmh. On a à peu près un taux de réussite de 95% actuellement sur les implants dentaires à 10-15 ans. Donc, c'est une thérapeutique courante.
C'est-à-dire que c'est la durée de vie qui...
Alors, c'est là, en fait, 95% des implants dentaires se portent bien après 10-15 ans. Sur 5%, on aura des petites réparations à faire, par exemple la couronne qui se dévisse, donc ça c'est simple, passer chez votre dentiste et refisser la couronne, ou la couronne se décolle de son pilier implantaire, donc simple, et parfois dans moins de 3 à 2% des cas, on peut avoir des pathologies sur ces implants qui sont un peu plus compliquées et qui nécessitent la dépose de l'implant. Donc ça veut dire nouvelle chirurgie, déposer l'implant. Et là, dans la plupart des cas, il faudra reconstruire l'os, d'où l'intérêt du chirurgien oral qui sera là pour faire une greffe osseuse, pour redonner un volume osseux acceptable pour supporter un nouvel implant dentaire.
Mmh. Quelle est la différence finalement entre un pivot et un implant dentaire ?
Alors, le pivot, c'est le deuxième étage. Donc, le pivot peut s'ancrer dans la racine naturelle dentaire. Donc, imaginez que vous avez une dent avec une grosse carie. Votre dentiste, votre chirurgien dentiste ne peut plus soigner cette dent par un composite. Alors, le composite, c'est le plombage moderne, hein, qui est blanc et de même couleur que votre dent.
L'inlay maintenant, non?
Alors, l'inlay aussi. Alors, l'inlay est un peu plus sophistiqué que le composite. Ouais. Puisqu'il est sur mesure et éventuellement fabriqué par ordinateur. Il est un peu plus onéreux du coup, mais bonne nouvelle, depuis 2019, la Sécurité sociale rembourse mieux les inlay only. Donc le pivot dentaire, c'est dans le langage courant, va être le deuxième étage, soit il va s'ancrer, visser dans l'implant dentaire, et le troisième étage sera la couronne. Donc, soit le pivot se visse ou se scelle dans la racine dentaire naturelle, soit dans l'implant dentaire, et va supporter la couronne, qui est le chapeau, en quelque sorte, esthétique et fonctionnel de la dent finale.
Et alors, quel est l'entretien au quotidien ?
L'entretien au quotidien, à chaque fois que vous avez des couronnes, même des couronnes sur dents naturelles, il y a toujours un maillon faible. Le maillon faible, ça va être la jonction entre votre couronne artificielle et votre dent naturelle, ou la jonction entre la couronne et l'implant dentaire. Cette jonction se trouve à la base de la gencive, et c'est là aussi que va s'agripper les bactéries dans la bouche. Donc vous comprenez facilement que ce joint de matériaux qui peut être très fragile, selon les matériaux utilisés, peuvent être colonisés, infectés à nouveau, et peuvent recarier une racine naturelle, là encore sans facteur d'alerte, parce que la racine sera souvent dévitalisée, ou peuvent aller abîmer, inflammer, infecter la gencive qui est autour de l'implant dentaire. Donc on aura petit à petit un implant dentaire qui se déchausse, et la visibilité de cette vis en titane qui est métallique. Et d'où l'intérêt pour les implants esthétiques au niveau de devant, d'avoir souvent recours à un aménagement de la gencive qui peut être une petite greffe de gencive.
Et là on greffe l'os, c'est quoi?
Alors, il y a deux tissus à reconstruire dans un implant dentaire. Il y a le tissu dur, c'est l'os qui va dans lequel va s'ancrer l'implant dentaire. Donc si on n'a pas une hauteur ou une épaisseur satisfaisante, le chirurgien dentiste ou le chirurgien oral, dans les cas de greffe plus avancée, va faire une greffe osseuse. Donc cette greffe osseuse peut être d'origine synthétique, synthétique chimique ou d'origine animale. Donc c'est les mêmes types de greffe osseuse qu'on utilise en orthopédie chirurgicale, notamment dans les cas de prothèses de hanche. Donc tout à fait safe pour l'organisme. Ou bien ça peut être d'origine même sur le patient. Donc des chirurgies compliquées chez le spécialiste, et dans les grosses greffes osseuses, on peut prendre des petites plaquettes osseuses au niveau de la zone des dents de sagesse du bas. Et donc l'intérêt, cette greffe osseuse, comme elle est d'origine du propre patient, va cicatriser beaucoup plus rapidement.
C'est une autogreffe en fait.
C'est une autogreffe, tout à fait.
Est-ce que c'est douloureux? Parce que c'est une question qui revient souvent finalement.
Alors, toute chirurgie buccale bien réalisée ne doit pas être douloureuse pendant l'intervention. On a des bonnes techniques de médicaments avant l'intervention et de bonnes anesthésies pendant l'intervention. Donc d'où l'intérêt, encore une fois, j'enfonce le clou, de voir dans les opérations avancées un chirurgien oral stomatologiste.
Ouais, vous enfoncez le clou, mais surtout ne prenez pas les clous entre vos dents.
Exactement.
Très déconseillé. Hein.
Très déconseillé, ça peut vous faire casser vos dents, et une mauvaise fracture, ce sera l'implant dentaire.
Bien, docteur Bilal Omarji, merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Vous voyez l'émission, si vous n'avez pas eu le temps de tout l'écouter sur la chaîne YouTube, où vous réécoutez les podcasts. Et demain, c'est Nadia Elbouga qui est avec nous. Merci.
Merci, au revoir, Bilal. Philippe, au revoir.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.